Donc, chers amis, bonjour. Nous sommes donc en plein mois de Elul. Bezrat Hashem, dans quelques semaines, c'est Rosh Hashanah. Et après, c'est Yom Kippour, d'accord? Donc, le travail de ce mois de Elul, c'est un travail de Teshuvah et essentiellement d'introspection. C'est quoi l'introspection? C'est que toute l'année, on a eu une vie, on va dire, banale. Et on a fait beaucoup de bêtises. On a fait des bonnes choses aussi. On a fait aussi des bêtises. Et donc, arrive le mois de Elul. On va essayer de faire un petit peu de nettoyage dans tout ce qu'on a fait et on va essayer de prendre sur nous pour un avenir meilleur, comme ça on dit. D'accord ? Le mois de Elul, la Teshuvah, l'introspection, c'est des gros sujets, on peut en parler pendant des heures. Il y en a même qui ont écrit des livres entiers sur ça. D'accord ? Un très bon livre qui s'appelle Les Chagim Yamim Noraim, que je vous conseille, où là-bas il y a beaucoup d'histoires, on parle beaucoup de ce sujet-là. Nous, on va attraper une petite Nekuda, une énorme Nekuda. D'accord, comment on dit Nekuda en français? Un point. D'accord. Alors, il y a un livre qui s'appelle le Messilat Yesharim. D'accord, vous connaissez le Messilat Yesharim? D'accord, le Ramchal, c'est un grand livre de Moussar, très connu, très réputé. Et rassurez-vous, on ne va pas dire quelque chose de très compliqué. On va dire la première phrase du Messilat Yesharim. On va sauter un petit peu d'un truc à l'autre et à la fin on fera une image globale, Bezrat Hashem. En tout cas, dans le chapitre 1, le Messilat Yesharim nous dit, vous êtes prêts ? Yisod ha-chassidut ve-shoresh ha-avoda te-imahu she-itbarer ve-itamet se-ladam ma-chovato ba-olamo. D'accord ? C'est une phrase très connue, d'accord ? C'est une phrase que tout le monde connaît par cœur, pratiquement. Je peux vous la dire par cœur. Yisod ha-chassidut ve-shoresh ha-avoda te-imahu she-itbarer ve-itamet se-ladam ma-chovato ba-olamo. D'accord ? C'est un truc que tout le monde connaît. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase ? Isod ha-chassidut, donc le Isod, c'est quoi ? C'est les fondements de la piété. Et Shoresh Avoda est la racine du service divin. Atemima, hu, Sheid Barer, Veitamel, etc. Le service parfait, d'accord ? Le service Shalem entier, il est. Donc la base de tout, c'est quoi ? Sheid Barer, Veitamet, etc. Adam, Machovato, Baolamo. La pierre. Des fondements de tout, c'est quoi ? C'est de comprendre, et l'étamètre, c'est un langage de vérifier, d'avoir d'arriver à la perfection de la vérité, de savoir dans la pure vérité, c'est quoi l'obligation d'un homme dans ce monde ? D'accord ? On a été créé, ouais. On a été créé ou on a été créé tout seul ? On s'est fait tout seul ou... Est-ce qu'on est le fruit du Big Bang ou on a été créé ? Qu'est-ce que vous dites, monsieur ? Ça va. On est des créés, vous êtes des croyants ? Vous y croyez vraiment ? Vous y croyez vraiment que ça ? Peut-être que Bémet, on est le fruit d'une explosion.
Il doit viendre l'explosion.
Je sais pas, il vient une explosion et on est... Non, c'est vrai, enfin, je dis ça en plaisantant. Ça aussi, c'est des drachotes entières. Et c'est aussi un des fondements de la Torah. C'est qu'on doit avoir une émouna parfaite, qu'on a été créé. D'accord ? Des gens... Il y a un livre qui s'appelle La Révolution. Vous connaissez le livre de La Révolution ? C'est nous qui l'avons, enfin on l'a fait traduire et tout, on l'a édité. Et un jour, j'ai parlé avec le Rav Zamir Cohen qui avait fait ce livre-là. Et il m'avait dit un truc terrible. Il m'avait dit, ce livre-là, avant de faire du bien au public non religieux, il a fait du bien au public religieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de bachour yeshivot, des gens qui ont grandi dans les yeshivot, ou de gens religieux, qui ont reçu la emouna de leurs parents et de leurs grands-parents. Mais... Malgré tout, ils avaient certaines questions, certains svekot, certains doutes. C'est des questions qu'ils n'ont peut-être pas osé tout le temps poser, ou ils n'ont pas trouvé où poser les questions, à qui poser les questions. Et lorsqu'ils ont ouvert ce livre-là, ils ont découvert plein de choses, et ils ont découvert plein de réponses à des questions qu'ils n'ont jamais osé poser. Et de là, leur émouna s'est grandement renforcée. Et ça, c'est un des pièges du Yetzirah, qui nous fait être des gens ma'amin, des gens croyants, et c'est bémet, c'est un vrai niveau qu'on doit arriver à ça, d'être ma'amin sans avoir besoin de preuves, d'avoir une émouna parfaite en Hachem, une émouna pure. Mais avant d'arriver à une émouna pure, il faut avoir une émouna travaillée. C'est quoi une émouna travaillée ? C'est de comprendre par A plus B, est-ce qu'il y a un créateur à ce monde ? Est-ce que le monde a été créé ? Est-ce que tout ça c'est vrai ? Est-ce que la Torah c'est ? Est-ce que ça c'est vrai ? Lorsque tu as clarifié tout ça dans ta vie, tu as clarifié tout ça, alors réellement, tu peux commencer à travailler et commencer à avancer dans la Torah. Si chez toi, tu n'as pas cette croyance bien ancrée, alors tu ne peux rien construire réellement. Ce n'est pas ce qu'il veut dire ici le Messilat Yesharim, mais on pourrait, pas le dire, mais comme il parle de Issod et de Shoresh, on pourrait faire le lien. En tout cas, c'est clair qu'on a été créé à l'occasion Bezrat Hashem. On pourra en parler en long, en long, en large et en travers. Qu'on pourra prouver par A plus B que le monde ne s'est pas fait tout seul. D'accord ? En tout cas, ici, le Messilat Yesharim, il dit deux mots qui sont très importants. Un, il dit Issod. C'est quoi Issod ? C'est fondement. Et il dit Shoresh. Shoresh, c'est la racine. C'est quoi la différence entre un fondement et une racine ? Fondement, c'est dans un bâtiment. Shoresh, c'est dans une plante. Le fondement, c'est quelque chose que tu fais une fois, et sur ça, tu construis un bâtiment. Le shoresh, c'est quelque chose que tu plantes, et après, il va évoluer. D'accord ? Bon, il y a plein de détails de qu'est-ce qu'il veut dire exactement. En tout cas, qu'est-ce qu'il nous dit ? C'est quoi le shoresh de tout ? C'est quoi la base de tout ? C'est de comprendre ma chovato ba'olamo. C'est quoi ma chovato ? Quelle est ton obligation ? Quel est ton... Moi, je vais pas dire obligation, je vais dire un autre mot. Je vais dire quel est ton but dans la vie ? Pourquoi est-ce qu'on a été créé ? On a été créé très bien, mais pourquoi on a été créé ? Alors à cette question-là, il y a beaucoup à répondre, il y a beaucoup à parler. Pourquoi, comment ? Il y a un million d'explications, il y a des livres entiers. Il y a un livre qui s'appelle le Da'at Vuna du Ramcha, là-bas où il explique des choses extraordinaires, Alpi Kabbalah, des choses incroyables de logique et d'intelligence. Moi, je ne veux pas rentrer dans tous ces trucs-là, parce que c'est, bon, c'est des sujets qu'on a déjà traités. Mais une autre Nekuda. Alors, d'accord, c'est ça, c'est la question. Pourquoi est-ce qu'on a été créé ? À quoi on sert ? Qu'est-ce qu'on doit faire dans le monde ? D'accord ? C'est une question existentielle. Donc, je vais faire le Messilat Yesharim, et maintenant, je vais ouvrir un autre livre. Ça, c'est un Chumash. Et on a vu dans Parashat Re'e, si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, la Parashat Re'e, elle commence par un pasouk très intéressant. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Re'e anori noten lifnechem ayom bracha uklala. Voyez, je mets devant vous. Eh bien, il est long, le Parashat, dites-moi. Voilà, Re'anochi noten lifnechem ayom, voici que je mets devant vous, donc c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, devant vous ayom, aujourd'hui, bracha uklala. Il y a une question que beaucoup de commentateurs y posent, il dit c'est quoi la klala ici ? Hachem il met devant nous la klala, c'est quoi la klala ? C'est quoi la klala ? Bracha, je comprends ce que c'est, bracha c'est, vas-y, Bezrat Hashem, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants... Des bons enfants, ta femme, tu auras Shlom Bayit, tu auras une belle maison, tu auras une bonne parnassa. Qu'est-ce qu'il y a comme bracha encore ? Tu auras des amis, tu seras en bonne santé. On comprend, bracha, on sait ce que c'est. On en veut, on sait, oui. Mais c'est quoi klala ? L'inverse. On a envie de dire que c'est l'inverse. On ne peut pas dire ça. Pourquoi ? Les commentaires, ils se disent, on ne peut pas dire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué comment ? Re anori noten lifnechem. C'est qui anori ? C'est Hachem. Qu'est-ce qu'il dit ? Moi, Hachem, noten lifnechem, je vous donne. Maintenant, noten, c'est un langage de matana. Matana, c'est quoi ? C'est un cadeau. C'est un cadeau, quelque chose de bien. Et Bémet Chazal, dans la Gemara, ils nous disent que Akadosh Baruch Hu, quand il donne, Be'ayin Tova, il donne. C'est quoi Be'ayin Tova ? Avec un bon œil, il donne de façon, comment dire ? Et kiff, large, bonne chose. Le mot noten ne peut pas être en accord avec le mot klala. Ça ne va pas ensemble. Noten et klala, ça ne va pas. D'accord ? C'est une question que beaucoup de commentateurs posent. Et donc forcément, le mot klala qui a marqué ici, il faut l'expliquer complètement autrement. Beaucoup encore de commentateurs qui expliquent qu'est-ce qui veut dire le mot klala. Nous, on va expliquer d'une certaine façon. Je ne vais pas non plus répondre à la question réellement, parce que je vous ai mis un peu sur la fin, hein, mais pas... Juste pour renforcer la question, comment est-ce que tu peux me dire que Hachem, il donne un klala ? Ah, on voit que quoi ? Il y a deux grands personnages. Un, il s'appelle Rabbi Akiva. Et un, il s'appelle Nachum Ish Gamzo. Vous connaissez Nachum Ish Gamzo ? Oui. Nachum Ish Gamzo, qu'est-ce qu'il disait ? Gamzo Letova ! Quand lui arrivait une galère, qu'est-ce qu'il disait ? Non, Gamzo Letova, même ça, c'est pour le bien. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il disait ? Kolman David Rachamana Letavavid. Tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien. Ils disent la même chose les deux ?
Non.
C'est quoi la nuance ? Gamzo Letova, tout est pour le bien. Et l'autre, c'est tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour le bien. D'accord ? Pour le bien, il l'a fait. En fait, il y a une nuance, c'est quoi ? C'est que Rabbi Akiva, lui, lorsqu'il avait une galère en face de lui, alors il dit, c'est une galère, mais je suis sûr que la Totsaha, la conséquence de cette galère, elle sera bonne. Et Bémet, on raconte l'histoire avec Rabbi Akiva, je ne vous la raconte pas, vous la connaissez, qu'un jour, il arrivait dans un village, il a demandé l'hospitalité, ils ne l'ont pas laissé rentrer, je vous la raconte rapidement, et il était très embêté, donc il a dû aller dans la forêt, et là-bas dans la forêt, qu'est-ce qu'il avait, lui, avec lui ? Il avait un âne, un... coq et une bougie. Et qu'est-ce qui s'est passé ? En plein milieu de la nuit, il y a eu un coup de vent, la bougie elle s'est éteinte. Ah, c'est embêtant, il n'y a plus de bougie maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Kolmani Vlachamal et Tavavi, tout ce qu'il a fait à Hachem, c'est pour le bien qu'il le fait. Et après, il y a eu une galère, il y a un, je crois, je ne sais pas ce que c'était, un chien ou pas, ou un chat, il est venu, paf, il a bouffé le coq. Le coq, à quoi il servait? Il servait à le réveiller. Et encore une fois, Rabbi Akiva, il dit tout ce qu'il fait à Hachem, c'est pour le bien. Enfin, maintenant, c'est une galère, j'ai plus rien qui va me réveiller ou j'ai plus rien qui va m'éclairer. Et après, il y a un quoi, je sais pas, un lion, un truc, il est venu et il a mangé le chamor. Et encore une fois, Rabbi Akiva, il a dit tout ce que Hachem a fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Kolman David Rachamana, l'état va vide. Et le matin, il s'est réveillé et qu'est-ce qu'il a vu? Apparemment, le village dans lequel il est rentré, il y avait de la fumée là-bas, il s'approchait et il avait été pendant la nuit envahi par un bataillon de méchants soldats qui avaient dévasté toute la ville. Et là, Baruch HaShem, il a dit, ah, vous voyez, on a été sauvés. Je vous ai dit que tout ce que HaShem y fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Pourquoi? Parce que si on avait eu la lumière, il nous aurait vu, il serait venu nous attaquer. Si on avait eu le coq, il serait mis à chanter et il nous aurait entendu, il serait venu nous attaquer. Et si on avait eu le chamor aussi, il serait mis à... Comment on dit? Qu'est-ce qu'il fait, le chamor? Brère. Fait. Enir, c'est qui? Non, Enir, c'est le cheval. Il serait mis à brère et on serait fait attraper encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Akiva? Il a dit, vous avez dit non, je vous ai dit que tout ce que Hachem y fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Ça veut dire quoi? Que quand on a vécu cet épisode de la mort du pauvre Hamor ou du pauvre Coq, c'était un drame. On a été triste, mais on a eu la Emouna que ça irait bien. Et ben, ça a été bien plus tard. Nahum Ishgamzo, il disait pas ça. Nahum Ishgamzo, il disait que même dans la galère, il voyait le bien. C'est un niveau qui était... Il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de choses mal. La chose que tu crois qu'elle est mal, elle est bien en réalité. Donc encore une fois, de là, on prouve que, à Kadosh Baruch Hu, comment il peut donner klala? Ça n'existe pas, il n'y a pas klala. Tout ce qu'il donne, c'est la bracha. Ou bien ça va, comme Rabbi Akiva, être une bracha, ou bien, comme Nahum Ishgamzo, c'est en soi une bracha. Donc forcément, le mot klala, il est très difficile à comprendre tel quel. D'accord? Oui ou non? Donc c'est pour ça qu'il y a des commentateurs qui expliquent comme ça. D'abord, ils expliquent au nom du Harizal... C'est des choses qui sont très connues, mais quand on sait qu'ils sont écrits, ça nous renforce plus. Il y a marqué que lorsque Adam Arishon, il a fauté, il y avait un, donc à l'époque, il y avait un homme qui s'appelait Adam Arishon. Il avait une très très grande neshama. Ça, c'est mes mots à moi, c'est pas les mots du Hari. Il avait une très très grande neshama. Et Adam Arishon, il a fauté. Et à cause de cette faute, il a dû donc réparer la faute. Et qu'est-ce qui va se passer? L'âme de Adam Arishon, elle va se disperser, elle va, quel mot employer, éclater, passer le mot, comment tu dis? Décomposer, éclater, décomposer, c'est un peu éclater aussi pas terrible. Bon, vous avez compris le sens, et elle va donc vous dire les 600 000 âmes du peuple juif. Et chacun donc va prendre une partie de l'âme de Adam Arishon. Et chacun donc va faire le tikkun, la réparation de Adam Arishon. D'accord? Ça c'est écrit dans les livres... dans le livre profond. Très bien. Maintenant, il faut savoir que chacun d'entre nous, d'accord, est unique. Il n'y a jamais eu, depuis la création du monde, un comme vous. Vous êtes unique. Oui?
On dirait Adam Arishon, il avait eu Yerkeda. Pourquoi si on a une particule de Adam Arishon, on ne peut pas les
répondre? Là, c'est des questions qu'il faut poser au Rav Abergel, pas à moi. Il a posé une question, je ne vais pas y répondre. Le Rav Abergel, il te répond à cette question magnifiquement. Mais c'est pas grave. Et donc, ce que je disais?
On est chacun unique.
Ah, vous suivez, ça va. Et donc, on est chacun unique. Pourquoi on est chacun unique? Tout simplement parce qu'on est chacun né dans une génération différente. Et ce n'est pas les mêmes épreuves. On est né dans un pays différent. Ou dans un endroit différent. On est né dans une famille différente. On est né avec un corps différent, avec des forces différentes, avec des amis différents, avec un sechel différent, avec un mazal différent, d'accord? Donc en réalité, on est tous différents. Il n'y a pas deux personnes qui se ressemblent dans le monde. À quoi ça sert? Afin que tout le Ram Israël, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, on répare toutes les particules de l'âme de Adam Arishon. Chacun, il est venu pour réparer une partie de l'âme de Adam Arishon. Donc vraiment, on est chacun unique. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'envier l'autre. D'accord, moi, je galère, je ne réussis pas d'entrer dans la vie, je vois mon copain, il est au top, il est fun, etc. etc. Je n'ai pas besoin d'être jaloux de lui, pourquoi? Lui, il a son rôle, moi j'ai mon rôle, lui, il a quelque chose à réparer, moi j'ai quelque chose à réparer. Pas besoin de s'envier, pas besoin d'être jaloux les uns les autres. Chacun, il a son tikkun ici. Et en réalité, tu t'aperçois que chacun, il a aussi ses galères. On croit que L'autre, il n'a pas de galère, mais il a autant de galères que nous, il a autant de choses que nous, il a autant de mirmour, comment on dit, mirmour, d'amertume. Alors chacun il a son lot. Il y en a qui le prennent bien, il y en a qui le prennent moins bien, mais chacun il a son lot. Et celui qui n'a pas d'épreuve, alors lui, il a un vrai problème, il faut qu'il se pose des questions. Parce que justement, s'il n'a pas d'épreuve, c'est qu'il n'est pas là pour réparer, donc il doit se poser des questions. Et donc chacun, donc, il est là pour réparer quelque chose. Alors, ok, super, très bien. Alors, chacun est là pour réparer quelque chose. Ok, monsieur le rabbin, qu'est-ce que moi je dois réparer, vous savez? Eh bien, ça aussi, il y a la réponse, très facile. La chose pour laquelle tu as du mal, la chose pour laquelle c'est dur pour toi, c'est une souffrance, c'est quelque chose qui te pèse, c'est dans ça que tu dois réparer. D'accord? Il y a beaucoup de Yetzerara. Quels sont-ils? Nous avons le Yetzerara des Midot, par exemple, on a la colère. On a la daga, des gens qui sont soucieux, d'accord. Il y a l'orgueil, d'accord. Hein? L'essentiel aujourd'hui, c'est les femmes, comme il dit. Tu as raison, en vérité, on essaye d'être un peu général. Mais aujourd'hui, on va dire la génération, c'est surtout la débauche, d'accord. Grand yetzera de la débauche. Apparemment, notre génération, là, a un petit coup de spécial à faire avec ça. Parce qu'on voit que, justement, les gens deviennent fous de ça, de tous les côtés, on a attaqué. Après, on a bon, plein de choses. On a le vol, là, qu'ils ont un certain vice par rapport au vol. Le vol, ce n'est pas forcément le vol à main armée. Ça peut être aussi l'escroquerie, etc., etc., etc. Chacun a une attirance pour une mauvaise chose. Et ça, c'est son tikkun. Tu veux savoir que tu dois réparer? C'est ça que tu dois réparer. Je rajoute une petite parenthèse. Ok, je dois réparer ça, mais est-ce que j'ai des... C'est quoi mes éléments? C'est quoi mes kelim que j'ai pour réparer ça? C'est les choses par lesquelles tu es attiré, mais dans le bon sens. Il y a des gens qui sont bah, le chesed, qui font du chesed, il y en a qui aiment la Torah, il y en a qui sont spécialement joyeux. Chacun, les bonnes choses qu'il a, ce sont les outils que Hachem lui a donnés pour vaincre ça. D'accord? Ça n'existe pas quelqu'un qui n'a pas une qualité, quelqu'un qui n'a pas une attirance pour quelque chose de bien. D'accord? S'il ne l'a pas, c'est qu'il l'a étouffé. Mais en général, oui, on a tous un bon point en nous. Comment on voit ça? On voit ça dans les enterrements, ouais. Quand il y a un enterrement, qui que ce soit qui est mort, toujours on lui trouve qu'il était l'homme le plus quelque chose. D'accord? C'est vrai, en vérité, quand on y pense, quand on va à l'enterrement, on entend ce personne. C'est vrai que je vais mettre ce point-là. Il était... Chez lui, c'est vrai qu'il était comme ça. Et donc, on voit que chacun a des forces. Donc, on a une épreuve, un tikkun, et on a des forces. Très bien. Jusque-là, tout va bien. Tout ce que je vous ai dit, vous le savez. Mais je vous dis un truc que vous ne savez peut-être pas, et c'est très énervant. C'est quoi? C'est que le tikkun, d'accord, ne peut venir, écoutez bien, que par le biais de Messirut Nefesh. Que par le biais, on va traduire Messirut Nefesh par, on va pas dire don de soi, c'est un peu trop, mais effort. Pas ishtadlut, effort. Plus que ishtadlut, c'est effort. C'est quoi effort? Si un homme, il dit, ok, très bien, moi j'ai un tikkun à faire, ok, je vais faire tchouva. Je vais aller le matin à la synagogue, je vais mettre les tefilines, je vais acheter des bottes filines, pourquoi des bottes? Je vais mettre un botalit, je vais essayer de ne pas être trop voleur, je vais essayer d'étudier un petit peu la Torah, d'écouter un cours, d'acheter un livre de Torah, la paracha ou quelque chose comme ça, ou je vais essayer de... D'accord? Je vais être un bon juif, tranquille, je vais marier avec une femme, machin, elle va se couvrir la tête, elle va être sanoua, une vie... bien, ça va, c'est bien, non ou pas? Si tu crois qu'en vivant comme ça, tu vas arriver à ton tikkun, eh bien, mon ami, tu rêves. D'accord? Comme ça, le Nitivot Olam, il nous dit que le tikkun ne peut venir que par le biais d'efforts. Si toute ta vie durant, tu ne fais pas d'efforts, tu n'as rien réparé. Et tu ne peux rien réparer. Il y a effort. Il faut faire des efforts. Et comme ça, il explique. C'est quoi la bracha et c'est quoi la klala? Maintenant, comment ça rentre dans les mots? Je ne sais pas. Mais comme ça, il explique. La bracha, c'est lorsque tu as réussi ton tikkun. La klala, c'est quand tu l'as pas réussi. Et comme ça, Hachem, il a dit, j'ai mis devant toi la bracha et la klala. C'est quoi de bracha et la klala? Tu as deux chemins. Tu as un chemin où tu peux réussir ton tikkun et réussir à t'accomplir. Et un chemin où tu peux ne pas réussir ton tikkun et rien faire. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire effort et messirut nefesh? On a tendance à croire, et ça fait peur, c'est des mots qui font très peur, ouais. Effort, on a l'intention qu'on doit se, 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 se flageller tous les jours, on doit se faire se rouler tout nu dans la neige. Ça existe, hein, des tikkunim de Kabbalah qui sont Yidbul Sheleg, qu'on doit se mettre des mégots de cigarettes sur la peau. Enfin, j'exagère, mais on doit faire des choses qui sont très, très, très dures. On doit étudier la Torah debout sur un pied quand il fait très, très froid dans la rue, un truc comme ça. On doit rien manger. C'est ça, des tikkun ? C'est ça, effort ? Peut-être, même celui qui fait ça, peut-être qu'il répare. Mais c'est pas ça, effort. C'est pas dans cette vision-là qu'il faut voir l'effort. L'effort, il faut le voir autrement, comme un sportif. C'est quoi un sportif ? Un sportif, c'est vrai qu'il fait des efforts. Il souffre, c'est dur. Moi, j'imagine que un mec qui fait le 100 mètres... 100 mètres, comment on appelle ça ? 100 mètres ? Ouais. Le sprint de 100 mètres, déjà, il doit beaucoup, beaucoup se préparer. C'est très, très difficile, je pense, de se préparer pour être un champion. Et quand il va faire le 100 mètres, il va dépenser beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est extrêmement dur. C'est un effort qui est extraordinaire. Est-ce qu'on va dire que cet homme-là, il souffre ? C'est pas une souffrance, c'est un kiff. Alors, il arrive, on le met sur le podium, on lui met une médaille d'or, il est au top, le bonhomme. Mais est-ce qu'il a souffert ? Il a souffert. C'était très, très dur. Les entraînements, il a dû ne pas fumer, il a pas dû ne pas manger de chouman, des frites, d'hamburgers, il a dû... D'accord, mais toutes ces choses-là, ce n'était pas une souffrance. C'est pas un sacrifice, c'est pas un... Il s'est coupé une main maintenant. C'était Edgar. C'est quoi Edgar en français ? Un challenge. Un défi. Et c'est comme ça qu'on doit voir la vie. La vie, c'est pas une vie de souffrance, c'est une vie de challenge. Maintenant, le challenge, il est où ? Il est dans quoi ? Le challenge, il est dans tout. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas réellement où est-ce qu'on doit être métaken. Et ce n'est pas parce qu'on a un gros problème avec tel sujet qu'il n'y a que ici qu'on doit être métaken. Il y a peut-être aussi d'autres choses qu'on doit être métaken, plus que ça. Lorsque tu arrives à t'arranger dans un point, automatiquement, tu arrives à t'arranger dans les autres points. Tous les traits de caractère sont liés. Et le challenge, il doit être partout. Toutes les choses qu'on doit faire, on doit faire un effort dedans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le matin, quand tu te lèves, d'accord ? Tu dois te lever à 6h du matin pour les slirot ou à 5h du matin pour les slirot. Le réveil, il sonne. Qu'est-ce que tu es en train de te dire ? Oh, les slirot, mais quelle galère, quelle souffrance, c'est dur. Non, dis pas ça. Dis au contraire. Oh, mais ce sera ta chaîne encore. J'ai une opportunité de surmonter ma gashmiut, ma matérialité, ma basse matérialité, ma grosse matérialité. Et pour essayer de m'élever, Bémet, celui qui arrive à se lever le matin avec des forces comme ça, alors il est content, il a surmonté quelque chose, il te rend compte, il y en a qui sont en train de dormir et moi je me suis déjà levé, extraordinaire, etc., etc. Ça peut être aussi dans les midot. T'as envie de t'énerver, t'as envie de te mettre en colère, t'as envie de... D'accord ? Et tu te calmes, mais tu te mets pas en colère. Il y a un type qui vient de voir un noudni comme ça, un mec qui vient, il te saoule. D'accord ? T'as envie de... Ouais, dégage, laisse-moi tranquille. Non, tu l'écoutes, tu donnes de l'attention. Ça aussi, c'est un challenge. Tu te rends compte, tu l'as écouté, tu lui as répondu, t'as fait un kiff à quelqu'un. Ni toi, tu t'es énervé, et en plus, à lui, tu l'as... Ça marche encore. Ça va ? À lui, tu l'as aidé. C'est extraordinaire. Et encore un challenge, etc., etc. Bezrat Hashem, il y a des gens mariés ici ou pas encore ? Il y a des gens mariés. Ouais, quand on rentre le soir, des fois, on n'a pas le moral, des fois, on est fatigué, des fois, machin, on a faim. Et on arrive à la maison, et tous les gosses en train de courir dans tous les sens, et jouer partout, le manger pas prêt... Et on a envie de rentrer chez soi et hurler, crier sur sa femme, comment, il n'y a rien à manger. Non, rentre le soir chez toi, tu vois que c'est la galère. Eh ben, il y a un challenge ici maintenant, ta femme elle est énervée, fais-lui un grand sourire, qu'est-ce que ta chérie ? Aide à ramasser les jouets, aide à coucher les enfants, ah, le petit l'a fait sur lui, c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a, allez. Prends ton courage à deux mains, va le nettoyer. C'est une preuve qu'on a tous les jours ça, celui qui est marié des enfants, une preuve qu'on a tous les jours. Ne pas voir ça comme des galères, voir comme ça des challenges, et c'est comme ça qu'un homme il grandit. Un homme ne grandit que par les efforts qu'il a faits. Si vous croyez en ne faisant aucun effort, vous allez réussir, on ne va pas réussir. On voit même dans le devant des études. D'accord, vous avez fait des études, vous avez eu le bac. Tout le monde a eu le bac ici ? Qui n'a pas le bac ? C'est vrai ? Toi non plus ? Incroyable ! Moi non plus, je n'ai pas le bac. Hein, c'est... En tout cas, le bac, on l'a eu que par le biais d'efforts, à moins d'être un génie. D'accord ? Et ça nous a donné quelque chose. On a obtenu quelque chose. Le Shlom Bayit. Comme on revient au Shalom Bayit, d'accord, la paix dans un foyer ne vient que par le biais d'efforts. Il n'y a pas d'efforts, il n'y a pas de shalom dans une maison. Pourquoi ? Parce que la femme, elle a ce qu'on appelle les hormones. Ça veut dire quoi ? Que des fois ça va, des fois ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas ? On ne sait pas. C'est un des mystères de la nature. On ne sait pas, c'est hormonal, on ne sait pas. L'homme aussi, il a des hormones, c'est des autres hormones lui. Lui, il est, tout d'un coup, il est très bien et tout d'un coup, il a besoin de kavod, il a besoin d'honneur. D'accord ? Donc si l'homme, il n'est pas capable de faire un effort, de comprendre que sa femme, elle a un besoin, et d'aller vers elle, lui faire un sourire quand elle ne va pas, ou de baisser la tête quand ça ne va pas. Et si la femme, elle n'a pas compris que lorsque des fois son mari a besoin de kavod, qu'elle doit lui donner ce kavod-là, et c'est des fois très très difficile, et c'est ça qui cause des tensions, on ne peut pas avancer dans la vie, il y a forcément des frictions. Par rapport à l'éducation des enfants, éduquer les enfants, c'est très difficile. D'accord ? C'est aujourd'hui le challenge de la génération, c'est éduquer les enfants. Aujourd'hui, c'est un malheur ce qui se passe, c'est terrible ce qui se passe. On ne peut pas éduquer les enfants sans faire d'efforts. Si un homme y croit, je m'excuse de parler de ça, mais si un homme y croit que ses enfants vont bien sortir sans qu'il s'en occupe, il se plante. Qu'est-ce qu'il a fait ? Les enfants, ils ont grandi, il leur a acheté des jouets, après ils ont 4-5 ans, il les met devant la télé, d'accord, il regarde des dessins animés, il regarde un film, il a 7 ans, 8 ans, il lui achète un iPhone, parce que malheureusement aujourd'hui ce malheur, il arrivait déjà à ces âges-là. Voilà, laisse-moi tranquille, t'as un problème, ouais, vas-y, prends ton iPhone, amuse-toi. Le père, il croit, la mère, il croit que tout va bien, ils vont grandir de façon équilibrée. Mais ils ne savent pas qu'en réalité, tous les dangers auxquels ils exposent leurs enfants. D'accord ? Pour ne pas éduquer ces enfants de cette façon-là, ça veut dire facilement, il faut beaucoup d'efforts. D'accord ? Être capable d'occuper ses enfants et de ne pas les mettre devant la télé, à regarder un dessin animé, c'est très difficile. C'est très difficile, le gosse, il a besoin de s'amuser, il a besoin de faire quelque chose. D'accord, c'est facile, tu mets en télé, il se débrouille. Mais ça, tu vas l'abîmer. Alors, qu'est-ce que tu dois faire ? Prendre un crayon, commencer à dessiner avec lui, et vas-y, dessine un train, tu vois qu'il va être content. Après, il dit, papa, avec la fumée, ouais, avec la fumée, et avec les vaches aussi, qui regardent le train. Oui, avec les vaches, tu crois qu'il fait tranquille, mais tranquille. C'est sans arrêt un travail, sans arrêt un effort, sans arrêt un effort, sans arrêt un effort. Mais cet effort, ô combien il paye ? Si tu crois que quand il a 7-8 ans en disant tu l'achètes un iPhone, tu vas être tranquille, au contraire, tu vas le détruire. Mais c'est dur, quoi. Je vais empêcher tous ses copains, ils ont un iPhone, comment je vais faire ? Eh bien, change d'école, change de copains, change de fréquentation, change tout ce qu'il y a autour. Mais c'est très difficile. Oui, mais c'est que comme ça qu'on réussit. S'il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de réussite. Et c'est dans tous les domaines de la vie. L'étude de Torah, c'est quoi l'étude de Torah ? Je viens de faire tchouva, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je dois faire ? Ben, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu vas aller sur lehava.fr et tu vas écouter tous les cours du Rav Chaya. Moi aussi, j'en ai pas mal, vous pouvez les écouter, ils sont bien aussi. D'accord. Ok, j'ai écouté ça pendant 6 mois, 8 mois. Je peux continuer comme ça, monsieur Rabin, toute ma vie ? Je dis non, ça c'est au début, c'est sympa d'écouter les cours de sur Internet. Maintenant, il faut commencer à étudier. C'est quoi étudier ? C'est quoi ? C'est prendre un livre en noir et blanc sans image ? Oui, et commencer à se casser la tête à comprendre chaque mot. Mais Rav, quand j'étudie 3 mots, ça met 3 heures et je comprends 100 000 fois même que quand je réécoute un cours de Torah. Oui, mais la différence, c'est que ces mots-là, tu les as compris tout seul. Tu as compris par le biais d'un effort. Et ces mots-là, c'est ton tikkun. D'écouter des cours, c'est très très bien, ça nous donne des notions, c'est extraordinaire. Il faut écouter des cours. Lire des livres en français, c'est extraordinaire. Il faut lire des livres en français. Mais ce n'est pas ça l'Limud HaTorah. L'Limud HaTorah, c'est de s'asseoir et de se casser la tête. Le Amal HaTorah. Et c'est uniquement quand il y a le Amal HaTorah, il y a l'effort de l'étude de Torah, qu'on arrive à son tikkun, qu'on arrive à réparer, qu'on arrive à faire quelque chose. S'il n'y a pas de Amal, il n'y a pas de Limud. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter des cours, celui qui arrive à faire que ça, qu'il le fasse, c'est sûr et certain. Mais celui qui a pris conscience qu'il faut passer la deuxième, comme ça, alors il faut effort. Et dans tous les domaines de la vie, d'accord ? Par rapport aux enfants, par rapport à la maison, par rapport au personnel aussi, par rapport aux midot. Les midot, c'est la vie. Les midot, c'est la vie. Quelqu'un qui n'a pas de midot, il ne peut pas avancer dans la vie. Il ne peut pas avancer, il est infernal. Et un des travails de la vie, c'est les relations qu'on a envers nos prochains. Et avoir des bonnes midot, c'est un travail et ça demande beaucoup d'efforts. Quelqu'un qui est orgueilleux, d'accord ? Quelqu'un qui aime se montrer, quelqu'un qui aime dire « Ah, tu vois, je suis un mec, ouais. » D'accord ? C'est très difficile d'être humble, c'est un travail. Et c'est un travail qui est nécessaire. Pourquoi ? Parce qu'un homme orgueilleux, au bout du compte, plus il va vieillir et plus il va devenir encore orgueilleux, il va devenir grognon et à la fin, il va être détestable. Donc si tu veux avancer dans la vie, si tu veux être accepté en société, tu veux qu'on se rappelle de toi comme quelqu'un de bien, tu dois travailler sur toi. La anava, l'humilité, c'est un travail, c'est un effort considérable. Et ça paye, et c'est extraordinaire, ça paye extraordinairement. D'accord ? Il n'y a pas que la anava, il y a un million de choses. Le chesed, la générosité, ça demande beaucoup d'efforts d'être un baal chesed. Et d'être un baal chesed, c'est quelque chose, c'est une des grandes parties de la Torah. Baal chesed, faire du chesed, ça ne se contente pas de mettre une pièce dans la tzedaka. Chesed dans la Torah, c'est un vrai avoda, c'est un vrai don de soi. On doit vraiment, on ne doit pas arriver au... Je vous raconte une histoire qu'il y a eu, j'ai entendu quelqu'un, il m'a raconté, ils ont parlé de ça cette semaine, à, je sais pas où, à la télé ou à la radio israélienne, Tel Aviv, il m'a raconté ça. Hein. Il y a un couple religieux qui n'avait pas d'enfants. Ils sont mariés, depuis 10 ans, ils n'ont pas d'enfants. Et ils sont comme des fous, ils veulent des enfants, ils veulent des enfants, ils veulent des enfants. D'accord, elle n'en peut plus la femme, elle veut absolument être maman, elle veut un enfant, elle devient folle de ça. Famille religieuse, rarédite, orthodoxe. Et ils essayent de faire des démarches pour adopter un enfant. Et je ne connais pas tous les détails, c'est, je suis qui est l'ichlichi hein, de l'histoire. Ils n'arrivent pas à adopter un enfant, impossible, on ne les laisse pas, on ne leur donne pas, peut-être qu'ils sont trop religieux et c'est pas bien, on veut des pas, voilà quoi, ils n'ont pas d'iPhone, alors encore moins. On ne sait pas, ils n'arrivent pas, à adopter. Ils font mille choses pour adopter, on n'arrive pas à leur donner des enfants. Et ils se renseignent, où est-ce que peut-être de l'étranger avoir des enfants, bon, ce n'est pas facile. Et à la fin, comment ils ont eu cette idée-là d'adopter un enfant que personne ne veut? Apparemment, les enfants à adopter, il y a des demandes, il y a des enfants que personne ne veut. Comme par exemple, les petits-enfants trisomiques. Les enfants trisomiques que personne ne veut. Et ils essayent donc de faire la démarche pour adopter un enfant trisomique. Et même ça, ils ne réussissent pas. Ils ne réussissent pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne connais pas les détails de l'histoire. En tout cas, lorsqu'ils étaient dans la démarche, les parents des deux entendent ça. Et ils sont choqués. Pourquoi vous voulez faire ça? Non, machin. Si vous faites ça, alors on ne vous connaît plus. On ne vous invite plus dans nos fêtes. Vous n'êtes plus chez nous. Ils voulaient les empêcher de faire ça. Et la femme, elle ne veut rien savoir. Et elle essaie de trouver une solution. Elle va voir une assistante sociale. Elle lui dit, trouve-moi un enfant. Je veux adopter un enfant. Je veux, trouve-moi un enfant que personne ne veut. Un enfant que, abandonné, personne ne veut. Un jour, l'assistante sociale, elle l'appelle. Elle lui a dit, écoute, j'ai trouvé un que personne ne veut. Une petite fille qui vient de naître, elle a été abandonnée. Alors aussi, je ne sais pas, comment on fait pour abandonner un enfant à l'hôpital. Je ne sais pas comment ça marche. Abandonnée, elle s'appelle Tamar, elle est prématurée, elle est trisomique et aveugle. Et elle doit faire une opération du cœur. Quel hôpital, elle lui dit, tel hôpital. Le couple se lève, il court à l'hôpital. Et ils vont à l'hôpital et ils demandent à rentrer. Maintenant, le problème, comme c'est des, comment on dit pas en français, des prématurés, on ne laisse pas rentrer n'importe qui. Qui vous êtes? Il dit, on veut voir Tamar, mais qui vous êtes? Qui vous êtes? Qu'est-ce qu'elle dit la femme? Elle dit, je suis la maman de la petite Tamar. Il dit, ah, c'est vous la maman! Mais rentrez, allez-y, oui! Le docteur, il arrive, quoi, c'est vous! Vous savez pas qu'on doit lui faire une opération? En plus, elle avait une opération dans, je crois, dans le cœur, on devait lui faire aussi une opération du cœur, un truc incroyable. Et là, la maman, la dame, elle arrive, elle voit le petit bébé comme ça, elle est plein d'appareils de tous les côtés, elle prend, elle le met sur son cœur comme ça, elle a dit, Tamar, ne pleure pas, je sais pas si elle pleurait, mais Tamar, ne pleure pas, maman est là, elle va s'occuper de toi, et jamais de ma vie, je t'abandonnerai. Aveugle, trisomique, malade du cœur. Ça veut dire que toute ta vie, ni t'iras au ski en vacances, ni t'iras tu vas toute ta vie t'occuper d'un enfant, car t'as des grands problèmes. Aujourd'hui, il raconte que la petite Tamar, elle a 3 ans, ils sont occupés d'elle, et ça a fait tellement du bruit, c'est ça, qu'il y a eu une certaine mode dans le monde religieux d'adopter des enfants comme ça. Et eux, là, ils essaient d'en adopter un deuxième comme ça. Quand le type m'a raconté cette histoire, mais je me suis dit, mais comment on fait du reset comme ça? Ça s'appelle du reset, c'est terrible. On ne dit pas qu'on doit le faire, je ne vous pousse pas à le faire. Mais nous, quand on fait du reset, qu'est-ce qu'on fait? On met une petite pièce dans la tzedaka, des fois c'est Bekoshi qu'on a mis la petite pièce. Il y a un mec qui passe, la dernière fois, il y a un mec qui m'a demandé tzedaka. Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, non, j'ai pas de monnaie. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Dis-moi, j'ai de la monnaie pour toi si tu veux bien. Bon, à la fin, tu sors le billet, machin, t'as du mal à lui donner. Et quand tu lui donnes, des fois, combien tu donnes? Un shekel, deux shekels? J'ai donné 5 shekels! Rendez compte, grand bal recette que je suis. Ça, je suis une bombe. Ça, c'est notre recette. C'est triste, quoi. Une fois, on a eu un invité à la maison Shabbat. On a invité, il a beau dormir. C'est extraordinaire. Ça, notre recette qu'on fait. Mais ça, c'est pas du recette, ça. Ça, c'est du normal, c'est du rien du tout. Il y a une mitzvah de faire du recette. Et le recette, c'est Messirut Nefesh. Bon, on va dire que ces gens-là, ils sont arrivés à un niveau incroyable, parce que faire un truc comme ça, il faut vraiment être très, 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 très fort. Mais c'est ça le chesed. Chesed, c'est effort. Torah, c'est effort. Midot, c'est effort. Shalom Bayit, c'est effort. Éducation, les enfants, c'est effort. Alors là, vous êtes en train de, déjà, je suis en train de vous faire un programme pour la vie qui est très, très fatigant, en vérité. On va être malade, c'est la vie comme ça. On a été créé dans un but. On doit faire un tikkun. Et on doit faire des efforts dans la vie. Maintenant, si on fait ces efforts-là, qu'est-ce qu'on croit? Maintenant, on croit que quelqu'un qui sacrifie... Je reprends le mot sacrifice, parce que c'est pas le bon mot, mais on croit que quelqu'un qui fait des sacrifices, alors il rentre dans des galères, il rentre dans des... Au contraire, quelqu'un qui fait ces sacrifices-là, c'est un homme qui grandit, c'est un homme qui te rend compte de la fierté qu'il peut avoir. Je vous raconte une autre histoire, rapidement, mais c'est extraordinaire le niveau du chesed, le niveau de... que quand ta tête, elle est que Torah, elle est que Messirut Nefesh, jusqu'à où tu peux arriver. Il y a un jour, je vous raconterai rapidement, il y a un couple qui s'est marié. Maintenant, c'est deux familles donc, qui se sont mariées. Deux familles de Kiruv Rechokim. Ils sont connus pour rapprocher des gens à la Torah, du chesed, deux belles familles comme ça, des Sfaradim, des gens très, très, bah, les chesed. Je ne connais pas les noms. Encore une fois, quelqu'un m'a raconté l'histoire, qui était là-bas ce Shabbat-là. Et donc, ok, très bien. Alors, ils organisent le mariage, magnifique mariage, etc., etc. Et maintenant, il y a Shabbat Ratan. Le Shabbat Ratan, ils ont loué une salle. Ils ont loué une salle. Et ils ont pris un traiteur. Et ils ont pris des serveurs. Comme ça, en général, on fait. On prend des serveurs qui viennent, qui servent. Donc, ils ont pris comme serveurs deux filles, deux garçons. Et il y avait un bonhomme aussi qui était responsable de mettre les trucs dans les plats, tout ça, pour les donner. Deux filles, deux garçons. Ils ont fait arvite, magnifique, ils arrivent dans la salle, la table très bien dressée, magnifique, tout le monde s'assoit. Et d'un coup, on va faire le kidouche bientôt, et d'un coup, ils commencent à lever le regard, et ils voient quoi, les serveurs. Qu'est-ce qu'étaient les serveurs? Des juifs, d'accord, pas religieux. Des petits jeunes, pas religieux du tout. Hein, apparemment, il avait la coupe, vous savez la coupe, comment ça s'appelle, brosse à toilette, là, un truc comme ça. Et boucle d'oreille, je ne sais pas ce qu'ils avaient en tout cas, mais ça se voyait que ce n'était pas le religieux. Et là, le type qui raconte ça, il dit, tu vois, les gens se regardaient comme ça les uns les autres, et tu ne comprenais pas pourquoi ils se regardaient, c'était quoi le truc. Ils font le kidouche, ils font netilat, ils font motzi, et après, au moment où on va servir le poisson, tu vois là-bas genre 2-3 tontons, 2-3 tatas qui commencent à se lever, ils s'approchent des 5 comme ça. Il lui dit, pourquoi vous allez m'attraper? Je veux d'abord manger un petit peu avec nous. Asseyez-vous. Ils leur ont fait des tchatchadaïm, ils les ont assis. Elles, ils l'ont assis à côté de celle-là, là, celle-là, à côté de celle-là. Et arrive le moment du poisson. Donc ils veulent se lever pour aller servir le poisson. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, restez. Nous, on va s'occuper. Et tu vois les tatas en train de se lever, machin, tac, tac, en train de servir le poisson. Ils servent le poisson. La même chose pour la viande. Et ils commencent à chanter. Et ils donnent un truc à chanter. Ils commencent à chanter. Le mec, il a que sa kippa comme ça, un truc en train de chanter en plein milieu, il devait travailler à l'origine, il ne travaille pas, il est en train. Et comme ça, les trois C ou d'autres. Le débarrassage de la table, la mise en page de la table, c'est qui? C'est que la famille qui l'a fait. Et c'est ces gens-là, ils les ont pris uniquement pour les... Maintenant, on dit, ok, c'est très bien. Et les divrei Torah, alors? Maintenant, c'est un mariage de famille qui se marie, extraordinaire. On va dire des divrei Torah en l'honneur du Hatan, en l'honneur de la Kala. De quoi ils ont parlé? Ni du Hatan, ni de la Kala. C'était que des paroles de Kiruv Rechokim, de rapprocher les gens à la Torah. D'accord. Et c'est des gens qui écoutent ça du matin au soir. Et vas-y, et tout le monde est dans une ambiance extraordinaire. Et alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens-là. Est-ce qu'ils ont... Mais le type qui m'a raconté ça, qui était à ce Shabbat-là, il m'a dit, mais c'est fou de voir comment le chesed et comment l'amour de la Torah, il était dans les veines de ces familles-là. C'est-à-dire qu'on est prêt à sacrifier, enfin sacrifier entre guillemets, une fête familiale uniquement pour grandir le nom d'Hachem. Et ça s'appelle tikkun, ça s'appelle la grandeur. Des fois, on est en train de kiffer, laisse-moi tranquille, je suis en train de kiffer maintenant, c'est mon truc à moi, laisse-moi, non. Maintenant, ces cas-là, pourquoi faire Messirut Nefesh? Tu peux aider, aide, pourquoi pas. Maintenant, pourquoi est-ce que... Je ne me dis pas pourquoi, parce que pourquoi, je ne sais pas pourquoi, c'est métaphysique. Mais je le dis quand même. Pourquoi est-ce que la Messirut Nefesh est importante? L'effort est important. Parce que l'effort, il est éternel. Qu'est-ce qui donne de l'éternité à nos actes? C'est uniquement l'effort. Il reste quelques minutes, je voudrais juste raconter une petite histoire qui n'est pas réellement liée avec notre sujet, mais c'est lié avec la Messirut Nefesh et l'éternité. Il y a une chanson, c'est extraordinaire, que tout le monde connaît. Vous allez n'importe où, vous allez à Tel Aviv dans un pub, d'accord, vous commencez à chanter comme ça avec une bière, machin, et tout le monde va se mettre à chanter cette chanson-là. Chanson religieuse. C'est quoi la chanson? Vous la connaissez? Ismechu Hashamayim, Ismechu Hashamayim. Qui connaît pas la chanson? Non, ça, tu viens vraiment d'une planète très éloignée de la Terre. Tu connais pas cette chanson, maman? Bon, c'est une chanson très très connue. D'accord? Vraiment, religieux, non religieux, tout le monde connaît cette chanson. Bon, fais semblant que tu la connais, au moins que l'histoire elle soit... En tout cas, mais c'est, réellement, c'est une chanson qui est très connue. Vous connaissez pas cette chanson?
Si.
Très connue. Qui c'est qui a écrit cette chanson? David Ameller, il se met au roi Shamaïm, d'accord? Les paroles David Ameller. Mais qui a écrit le pismon, l'air? Qui c'est? L'âne Moore de Pittsburgh. Pittsburgh, c'est aux États-Unis. Ouais, il y a une ville comme ça qui s'appelle Pittsburgh. Et là-bas, il y a l'âne Moore, un rave, l'âne Moore de Pittsburgh qui a écrit cette chanson-là. Et dans quelles circonstances il a écrit cette chanson-là? Donc d'après ce que je comprends, l'âne Moore de Pittsburgh, c'était après la Shoah, il est venu aux États-Unis, il a créé une communauté comme ça. C'était un monsieur qui était plein de chaleur, il a ramené beaucoup de gens à la Torah. Un jour, il y a un bonhomme, il est venu le voir, il dit « Voda Rav, il faut absolument que vous m'aidiez, j'ai un grand problème. » Il dit quoi ? Il dit « Ma fille est partie avec un non-juif. » Nous, on n'a rien contre les non-juifs. Ras Shalom, on n'a aucun problème avec les non-juifs. Mais nous autres juifs, nous avons une kpeda, comment on dit kpeda en français, de se marier entre nous. Pourquoi ? Parce qu'on veut la transmission de la Torah. D'accord ? Et ça, il n'y a que les juifs entre eux qui se comprennent pour ça. Donc c'est pour ça que les mariages mixtes sont interdits chez nous. Si quelqu'un veut se convertir pour se marier avec un juif ou une juive, la brioude qui vienne et il se mariera avec un juif, d'accord? On n'est pas contre personne. Je ne dis pas ça par la politique, mais c'est une vérité. En tout cas, il parle avec un non-juif. Il faut que vous la sauviez, Rav. Il dit, bon, tu veux que je parle? Oui. Bon, amène ta fille, je vais lui parler. Il dit, Guadarab, elle n'est pas là, ma fille. Il dit, elle est où? Elle est en Floride. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il dit, bah, que vous veniez avec moi en Floride. Il dit, mais tu crois vraiment que ça va servir quelque chose? Il dit, faut essayer, Rav. Faut essayer. Il dit, d'accord. Bon, ok, je suis prêt. Maintenant, dans la salle, il y avait la rabbinite qui entendait ça. La rabbinite a dit, non, ma pitom, tu voyages pas. Tu as fait une opération de je sais pas quoi, du poumon ou du cœur. Et de voyager, c'est très dangereux pour toi, l'avion avec la pression, la surpression, la sous-pression, je ne sais pas. C'est dangereux. Qu'est-ce qu'il dit, le Rav? Il dit, je vais appeler le docteur. Il appelle le docteur. Qu'est-ce que vous pensez, docteur? Je peux voyager ou pas? Il dit, c'est vrai que c'est un peu dangereux. Par contre, si je voyage avec vous et je prends avec moi un ballon d'oxygène et que vous avez un petit problème, là, je peux vous aider à respirer bien. D'accord. Allez, on voyage. Donc les trois, ils voyagent en Floride. Ils arrivent. Et là, le Rav, directement, il va voir la jeune fille et commence à lui parler. Donc le Rav avec la barbe, comme ça, il commence à parler avec la jeune fille qui avait apparemment quitté un peu la Torah. Et donc il y avait le non-juif qui était là aussi, ils écoutaient. Et convaincu. Qui est convaincu?
Le mari,
il est convaincu, le monsieur, il est convaincu. Monsieur le rabbin, vous m'avez convaincu. D'accord, allez, je la quitte. Et quoi, tu me quittes, salaud, tous les mots que tu m'as dit, que tu m'aimais, t'as pas honte, et tout. Et dit, mais écoute, le rabbin, ce qu'il dit, c'est. Bon, en tout cas, elle n'est pas convaincue. Elle veut pas, l'amour est au-dessus de tout. Vous connaissez ces trucs-là, ouais? Et à la fin, le rabbin, il continue à lui parler, il lui parle, et étrangement, elle écoute la fille. Donc elle écoute, il parle, il écoute. Elle écoute, il parle. Ça a duré 3 semaines. Pendant 3 semaines, le Rav, matin, midi et soir, elle allait lui parler. Et elle écoutait. Elle veut pas. L'amour, comprenez, l'amour est au-dessus de tout. D'accord, elle a vu tous les films de machin, Love Story, etc. Quand il meurt à la fin. Non, c'est elle qui meurt à la fin, je crois, là-bas. Et non, et elle veut pas à la fin. Et à la fin, au bout de 3 semaines, elle lève les bras. C'est extraordinaire parce que vous savez, en hébreu, comment on dit? La rim yadaim. En français, on dit on baisse les bras. Ouais? Quand on abandonne, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras. C'est marrant, en hébreu, on lève les bras et on. Pourquoi? Non, parce que les juifs. Non, on lève les bras. On rim yadaim parce que là, on lève les mains vers Hachem. Il n'y a que Akash qui peut m'aider. En français, il n'y a pas. On baisse les bras. Il n'y a plus rien qui m'aide. Il y a Claton qui va m'aider. Là, il y a Hachem qui m'aide. Donc il a levé les bras. Elle a levé les bras. Je me rends. Ok, je le quitte. Mais plus que ça, que Vodara, vous m'avez convaincu, je fais tchouva. Je reviens à la Torah. Extraordinaire, belle histoire, magnifique. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? Maintenant, il faut retourner à la Pittsburgh. 3 semaines sont passées. Les chassidim, ils attendent, le Rav. Et ils montent dans l'avion. Et qu'est-ce qui se passe dans l'avion? Terrible, une crise. Le Rav a une crise. Il arrive à respirer. Et là, le Rav, il devient rouge, bleu, vert, jaune, toutes les couleurs. Et le docteur, pendant 3 heures, a essayé de le ranimer. Il le ranime. Et au bout de 3 heures, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est mort, le pauvre? Il veut tuer le pauvre. Non, au bout de 3 heures, bah, Hachem. Non, je plaisante. Il le ranime. Mais le docteur, il est tachycardie, il est comme ça. Il vient de sortir un truc très, très dur. Et là, le docteur, il s'énerve avec le Rav. Il dit, mais c'est de la folie, qu'est-ce qu'on a fait? Mais est-ce que ça valait le coup, 3 semaines, de se mettre en danger? pour aller une fille ? Et là, le rabbi écoute ça, il dit quoi ? Une fille ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu sais ce qui se passe maintenant dans le ciel ? Ismechua Shamaim ! Le ciel, il est en train de se réjouir. Les cieux, ils sont en train de se réjouir. Vetagel arrête, c'est la terre, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, la terre ? Elle se réjouit, elle danse. D'accord ? Et la mer, alors je ne te parle même pas de la mer. Iromaya, Moumloro. Et tous les poissons dans la mer, ils sont en train de danser maintenant. Une batte Israël qui est revenue à la Torah, tu sais ce que c'est ? Et là, le Rav, il s'est mis à chanter. Vous connaissez la chanson ou pas ? Vous savez la chanter ? Ismechu Hashamayim, Ismechu Hashamayim, Ismechu Hashamayim, Vetagel Haaretz, Ismechu Hashamayim, Hashamayim, Ismechu Hashamayim, Ismechu Hashamayim, Vetagel Haaretz, Iromayam Umloho. D'accord ? Maintenant, belle histoire. Belle chanson, très bien. Et alors, quel rapport tout ça ? Rav, il a expliqué, il se faisait pourquoi cette chanson, elle est connue de tout le monde ? Parce que c'est le fruit de la Messirut Nefesh. Le Rav, il a fait Messirut Nefesh. Il a donné toute sa vie, il était prêt à donner sa vie même, pour aller sauver une bâtisse Israël. Il a tellement fait Messirut Nefesh que cette chanson-là, elle s'est ancrée et elle est devenue un héritage du peuple juif. Et ça, c'est le salaire de la Messirut Nefesh, le salaire de l'effort. Celui qui croit qu'il a fait des efforts, il va perdre quelque chose, il ne va rien perdre du tout. Tous les efforts que tu vas faire, tu vas planter des graines de qualité qui vont donner des arbres extraordinaires. Donc Bezrat Hashem, Kakosh Baruch Hu, il nous donne la conscience. Parce que ce n'est pas tout d'écouter, c'est aussi d'appliquer les choses. Et Shana Tova.